Swing Time 2017. Swing Time, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges. Bonjour Alain, bonjour à tous.
Bonjour Martine, bonjour tout le monde.
Quel bon vent t'amène ?
Eh bien, il y a eu des vents contraires, donc il y avait un vent dominant la semaine dernière, ouais. Et puis il y avait des vents contraires
qui t'ont...
Ils m'ont envoyé à la case départ, donc je suis revenu.
Bienvenue.
Ça a ouvert la porte, ça a ouvert la fenêtre, donc je suis rentré, je m'assois.
Alors, un drôle de titre aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on va parler de black sticks et de carottes. Donc des petits bâtons noirs et des carottes, avec un sous-titre. Sidney Bechet a-t-il des héritiers ? Donc c'est la suite de
c'est
la semaine dernière.
C'est le thriller.
Voilà.
On y va.
Le black stick, c'est la clarinette. Oui. La carotte, c'est le saxo soprano. Donc on va écouter.
C'est clair, c'est
voilà,
clair.
On va écouter des clarinettistes, des sopranistes, voir s'ils sont plus ou moins inspirés de Sidney Bechet qui a joué de ces deux instruments. On a écouté cela la semaine dernière. On a écouté Sidney dans différents contextes qui tous démontraient son style flamboyant, sa sonorité surpuissante. À la clarinette et au soprano, et on va s'intéresser cette semaine à des musiciens donc plus ou moins influencés par la manière de jouer de Sidney, dans la construction mélodique, dans la manière de jouer en collective, dans la puissance recherchée. Et on va voir que c'est pas facile de trouver des héritiers directs de Sidney Bechet, puisqu'il a eu peu de personnes qui l'ont joué tellement dans son style, mais il a influencé énormément de musiciens, et notamment des clarinettistes et des sopranistes, évidemment. Donc, on ne pourra pas vraiment parler de disciples, mais de clarinettistes ou de saxophonistes qui ont subi l'influence de ce génial et très original instrumentiste. Et on va se tourner tout d'abord vers les États-Unis pour trouver des musiciens proches de Sidney. D'abord, celui qui fut son ami, qu'on a écouté la semaine dernière, et qui lui a en quelque sorte ouvert les portes de la France, qui a aussi influencé beaucoup Hugues Panassier dans son approche du jazz authentique. J'évoque donc évidemment Milton Mesmero. Nous allons l'écouter à côté de Sidney dans un des nombreux enregistrements King Jazz, puis seul avec son propre orchestre. Mes joue de la clarinette, donc le black stick, pendant que Sidney est passé au saxophone soprano, plus puissant, c'est-à-dire la carotte. Successivement, on écoute The Blues and Freud, le psychanalyste, sans doute, disque enregistré à Chicago le 19 décembre 1947. Puis on va écouter un disque, un morceau qui s'intitule Clarinette Blues, enregistré à Paris le 26 mai 1953. Thank you. voix, bien sûr, c'est Clarinette Blues.
Oui.
Mais je pense que c'est... On en est sûr. Alors, dans le premier titre, à côté de Sidney Bechet au soprano et de Mez Mezrou à clarinette, il y avait Sammy Price au piano qui prenait un très joli solo de piano, évidemment. Pat Foster à la contrebasse, Kaiser Marshall à la batterie. Dans le second titre, Mez Mezrou dirigeait une formation avec le trompettiste Buck Clayton. Si Mez et Sidney étaient contemporains, Mez Mezrou était né en 1899, Sidney Bechet probablement en 1897, du moins c'est ce que nous dit Fabrice Zamarchi, qui semble connaître bien son âge, mais ça reste encore en discussion, quoique. Il n'en est pas de même, parmi les contemporains, de Bob Wilber, qui lui est né en 1928, donc est beaucoup plus jeune que Sidney, mais Sidney Bechet était le mentor de Bob Wilber. Et Bob Wilber a commencé sa carrière avec le maître. On va l'écouter, Bob Wilber, à 19 ans, alors qu'il est à la tête de ses Wildcats. C'est un orchestre semi-professionnel. Bob Wilber joue de la clarinette à côté du génial saxophoniste soprano. On les écoute dans Kansas City Man Blues, enregistré à New York, 14 juillet 1947. C'est la fête, 14 juillet. En train de dire que Sidney Bechet ne jouait pas trop fort cette fois-ci.
Il jouait le grand frère, c'est ça ?
Il jouait le grand frère, ou le papa, parce qu'ils ont 30 ans d'écart, en jouant, en enveloppant la musique de Bob Wilber. On va écouter maintenant Bob Wilber, mais beaucoup plus tard, et au soprano. Alors, ce musicien a mis du temps à se mettre au soprano droit, à la carotte, hein, le vrai soprano, celui qu'on connaît le plus souvent, il est toujours en mi bémol. Et il était sans doute écrasé par l'ombre tutélaire de Sidney. Et donc, au départ, il utilisait un soprano courbe qu'on retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, avec Paul Chéron, qui dirige le Tuxedo Big Band, et il joue souvent avec un soprano courbe, quand il joue du soprano. Donc, si Bob Wilber jouait d'un soprano courbe, c'est que le complexe était grand. On écoutait Freud tout à l'heure, hein, je signale tout de même. Écoutons maintenant Bob Wilber, et j'affirme quelque chose de juste. J'ai raison de chanter le blues. I Got a Right to Sing the Blues, enregistré à Hambourg, Anzweigrei, le 28 septembre 1996.
To sing the blues, I've got a right to feel low down. I've got a right to hang around down beside the river. A certain man in this old town keeps dragging my poor heart around. All I see for me is misery. I've got a right to sing the blues. I've got a right to moan and cry. I've got a right to sit and sigh down along the river. I know the deep blue sea is waiting there for me. It must be love, say what you choose. I've got a right to sing the blues.
Elle avait raison de chanter le blues, cette brave Joan Pug Horton. Je donne le nom de la chanteuse, qui est la femme du chef. Les autres musiciens qu'on a entendus, c'est Antti Sarpila à la clarinette, Mark Shane au piano, Phil Flanagan à la contrebasse, Joe Assion à la batterie. Et ce sont de bons interprètes de jazz contemporain, de jazz d'aujourd'hui, de jazz actuel, de jazz qui swing, de jazz, voilà, de bons musiciens de jazz. Revenons en 1949, Sidney Bechet, on l'avait vu, entendu qu'on se constatait la semaine dernière, vient régulièrement en France. Il enregistre beaucoup, notamment avec de jeunes musiciens locaux, pour qui il est un modèle et même une idole. Le premier et le plus connu de ces musiciens locaux est bien sûr Claude Luther, et j'ai choisi un extrait du concert donné par Sidney Béchette à Pleyel avec l'orchestre de Claude. La joute entre le soprano du premier, donc Sidney, et la clarinette du second, Claude, est passionnante sur ce morceau de bravoure du style New Orleans qui s'intitule High Society, Paris, le 31 janvier 1952.
Thank you.
Le petit un petit peu enveloppé moustachu là, qu'on a entendu et qu'on a vu derrière sa batterie, c'est pas Gérard Jugnot, hein, non, non, trop jeune, là, c'est pas possible, ça. Non, non, il s'appelle François Galipides, et ses moustaches, voilà, qu'on avait entendu la semaine dernière, hein, avec le même orchestre, d'ailleurs. Et donc, c'était Moustache. Et au trombone, le solo de trombone, c'était Bernard Zacharias, et c'était bien un enregistrement pris à Pleyel. Et quand je pense que c'est une des principales salles de la musique classique à Paris, la salle Pleyel, et on y fait du jazz, mais c'est incroyable ça. D'ailleurs, je me souviens, j'ai entendu Conbezy et la Fitzgerald les regarder, et j'étais pas le seul évidemment. Et donc, le jazz, qui est une musique ludique, fantastique, swingante, foisonnante, déconnante, c'est aussi une musique sérieuse. La preuve, c'est joué à Pleyel. Démonstration faite. Tu es d'accord, Martine ?
CQFD, oui.
CQFD. Nous allons continuer avec du jazz, sérieux et déconnant en même temps. Et lorsque Sidney Bechet n'est pas accompagné à l'époque par la formation lorientaise de Claude Luther, puisqu'il jouait dans un club qui s'appelait le Lorientais, eh bien il l'est par celle d'André Reveliotti, qui est un autre admirateur absolu de Sidney, qui joue aussi de la clarinette. On va donc écouter Sidney Bechet accompagné par l'orchestre d'André Reveliotti dans... C'est un titre consacré à une jeune nana sans doute, puisque ça s'appelle, peut-être endormie, sans doute un peu nonchalante, c'est Sleepy Time Gale. On est à Paris le 7 septembre 1951. Reveliotti jouait de la clarinette assez discrètement, hein, il s'est tenu au second plan, mais on l'entendait bien, notamment à la fin. Et le pianiste était Yannick Saint-Gery Yannick, et qui avait légèrement accéléré le tempo à la fin de son solo. Mais c'était pas grave, le morceau passait très bien. Écoutons maintenant directement les disciples de Sidney que l'on vient d'entendre, c'est-à-dire Claude Luther, le premier, ensuite André Reveliotti, Claude Luther qui doit tant à Sidney Bechet, même si ses influences sont plus à rechercher du côté de Johnny Dodds, autre génial musicien de la Nouvelle-Orléans. Voici Claude dans une formidable session d'enregistrement avec encore un clarinettiste majeur, c'est même mon préféré pour moi, mais je donnerai son nom qu'après. Il faudrait me torturer pour que je le donne, mais vous l'aurez trouvé aussi, j'espère. On va écouter ce morceau composé par Sidney pendant sa période française. On va comprendre pourquoi. Le morceau s'intitule « Promenade aux Champs-Élysées ». Il est enregistré par les Disques Vogue, évidemment, à Paris, le 14 décembre 1960. Ce magnifique clarinettiste
Barney Bigard.
Absolument, Léon Albani Barney Bigard. Très bon clarinettiste, très talentueux, qu'on différencie bien de Claude Luther. D'un côté, on a un son expressif et legato, hein, tout léger, tout lié. Et de l'autre, un son mordant et péremptoire. Voilà. Mmh. Mais quand j'écoute Barney Bigard, j'ai l'impression de boire un bon cognac ou un bon armagnac qui a vieilli dans un fût de chêne. Ça coule pareil, tellement c'est boisé.
Quel poète!
Non, c'est, mais... ça, je suis gentiment alcoolo, mais très très peu. Mais ça me rappelle ça.
Oui,
et donc on peut écouter Barney Bigard en buvant sans un modération. Bon vieux cognac, sans modération pour Barney Bigard, pour le reste bien sûr avec modération, on est d'accord. Il faudrait que je dise aussi quels sont les accompagnateurs dans ce disque. Ils ont tous vécu à l'ère Bechet. Il s'agit d'Eddie Bernard au piano, très bon pianiste, de Roland Bianchini à la contrebasse et de Teddy Martin à la batterie. Sidney Bechet a eu la même influence donc sur bien d'autres clarinettistes ou sopranistes français de l'après-guerre. J'en cite deux, même trois. Pierre Braslavski, qu'on va écouter, Michel Attenot, qu'on va écouter, voire Maxime Sory, qu'on écoutera un peu plus tard. Je vais donc passer une séquence dans laquelle on entend les deux premiers, Pierre Braslavski, Michel Attenot, jouant à des époques bien différentes, dans des styles tout à fait personnels, successivement Texas Mono Blues, et là on entend Pierre Braslavski, enregistré à Paris. Je n'ai pas réussi à trouver l'année, mais c'était une émission présentée par André Francis. C'est donc fin des années 40 ou tout début des années 50. Et le deuxième morceau qu'on va écouter, il s'agit de La Prière, le morceau de Brassens, enregistré à Paris en janvier 79. Donc, successivement, Texas Moner Blues par Pierre Braslavski, La Prière par Michel Attenot.
Thank you.
Est-ce que c'était beau?
C'était beau. Je ne sais pas, est-ce que Dominique a aimé? Est-ce que tu as aimé, Dominique?
Il a adoré.
Il t'en crie. D'ailleurs, j'ai passé ce disque il y a à peu près un an, tu vois, quand j'ai fait l'émission sur Brassens.
Voilà.
Non, vraiment,
et bon, on l'a repassé.
Je ne pouvais que l'aimer. Hein.
Voilà. Ça, j'ai des personnes qu'on le repasse. Voilà. Très, très beau. Très, très beau morceau. Le premier aussi. Le premier titre qu'on a entendu, Texas Monster Blues. Tout le monde se souvient que la semaine dernière, c'était le titre numéro 2 qu'on a écouté avec Sidney Bechet. Ça, tout le monde s'en souvient. Et La Prière, tout le monde sait que c'est un morceau de Brassens. Brassens en jazz ne doit étonner personne, car le brave Georges adorait la musique de jazz depuis son enfance et monté à Paris, il fréquentait les clubs de jazz et il s'est produit au Vieux Colombier d'Antibes, n'est-ce pas Dominique?
Oui, dans les années 50, c'est là qu'il a rencontré Moustache.
Il a rencontré, non pas Moustache, ce gras du bide de Moustache. Ce gras du bide de Moustache.
Voilà. Et ils se sont revus dans les années 70 et c'est là qu'ils ont décidé de faire un disque ensemble.
Voilà. Et on a le résultat.
Sur les thèmes de Brassens, on a le résultat.
On a le résultat et Dominique, vous avez présenté le disque complet il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, ce gras du bide de Moustache, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est, je cite un poète. Le poète s'appelle Georges Brassens tout de même. Hein. C'est dans une chanson.
Ça.
Voilà. Eh bien, tout à l'heure, j'ai parlé de Maxime Sory, le papa de Julie. Julie, c'est notre batteuse préférée. Eh bien, le papa de Julie, c'était Maxime Sory. Il s'est lancé, lui aussi, à l'époque de la Bechette Mania. Il a totalement admiré notre génial Louisianais, allant jusqu'à composer à sa mort un « I Remember Sidney », mais qu'il n'a jamais enregistré. On l'écoutera tout de même, « I Remember Sidney », mais pas par Maxime. Le mentor de Maxime Sory, c'est plutôt Barney Bigard, et c'est peut-être pour cela que j'apprécie énormément le brave Maxime Sory. Et quand je jouais de la clarinette bien jeune, j'avais un poster de Maxime Sory dans une armoire. Donc ça, je me souviens très bien. Je vois encore son regard à Maxime Sory sur moi. Je ne sais pas s'il appréciait mon jeu de clarinette, ça t'est nettement moins sûr. Donc je reviens à Maxime Sory, bon clarinettiste, que l'on va entendre avec un titre qui rappelle un enregistrement Armstrong Bechet de 1940. La semaine dernière aussi, on a entendu Armstrong Bechet, un aux deux égaux surdimensionnés. Là, c'est Maxime Sory qui joue avec son orchestre, Perlillo Street Blues, enregistré à Paris le 14 septembre 1960.
Thank you.
Comme on évoque Sidney Bechet et Maxime Sory, on est obligé de penser aussi à Marc Laferrière, notre berrichon local, hein, c'est notre voisin Marc Laferrière, qui est un talentueux sopraniste, qui a beaucoup écouté Sidney et qui a adopté lui aussi la carotte, mais lui sans complexe, il a pris la carotte la vraie, hein, le saxo-soprano tout droit. Il n'a pas fait comme Bob Wilber qui lui a eu quelques circonvolutions dans sa vie avec le saxophone, hein, avec le saxo-soprano. On va donc entendre deux titres par Marc Laferrière. Le premier qui est justement la composition de Maxime que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire « I Remember Sidney ». Et le second titre qu'on va écouter, qui est plus dans le style de Sidney Bechet, avec une composition de Sidney qui a été beaucoup jouée par les suiveurs de Sidney. Donc tour à tour, on écoute « I Remember Sidney », enregistré à Paris en mai 64, puis « Sway », qui est enregistré à Paris, mais le 23 mars 1962. Voici Marc Laferrière.
Thank you.
Eh bien, Marc Laferrière avait découvert la musique de Sidney en 1949, lorsque ce dernier, plutôt Marc Laferrière, hein, pas Sidney, si, je dis bien, Sidney Bechet était venu en France pour le fameux premier festival de jazz de Paris, et les disques de Sidney et de Claude Luther lui servirent de formation, alors cette fois-ci à Marc Laferrière. C'est une formation qui était bonne, sans doute, et il se mit au saxo soprano en 1951. Et alors qu'il était encore lycéen à Orléans, d'un Berrichon, donc il était au lycée Orléans, je dis bien Orléans, pas à la Nouvelle-Orléans. Mais ça a dû le marquer un petit peu, je suppose. Hein. Surtout qu'à l'époque, il y avait aussi les bases de l'OTAN, donc il y avait plein d'Américains à Orléans. Et ça faisait de la musique. Il y avait les boîtes pour les Noirs, les boîtes pour les Blancs, mais il y avait de la... ça swingait déjà. Même quand j'étais en culotte courte, j'écoutais ça de l'extérieur. Je n'allais pas en boîte, évidemment. J'étais chez ma grand-mère. J'étais sérieux. J'ai toujours été sérieux, Martine. Alors, tout ce vieux jazz qui fait référence au Sidney Bechet français des années 40 et 50, si jeune dans sa musicalité, dans son rythme, dans la joie qu'il dégage, infusé jusqu'à aujourd'hui dans nombre de formations de jazz françaises. D'ailleurs, très souvent, on entend, hein, on est dans la rue, qu'est-ce que jouent les jeunes ou les moins jeunes, les petits orchestres amateurs de rue, ils jouent énormément de jazz de style New Orleans, très inspiré de Sidney, pas forcément du même niveau, mais inspiré en tout cas. L'une des formations de jazz française qui, elle, est bonne, qui vient de cesser ses activités régulières, se nomme les Dumoussier Stompers. Elle est dirigée par l'ami Laurent Verdeau, en référence au père Panessier qui a fini sa vie justement à Montauban, Faubourg du Moussier, d'où les Dumoussier Stompers. Et parmi les sopranistes qui ont figuré dans cet orchestre, deux ont même joué ensemble, l'un avec un style plutôt Mesereau, l'autre avec un style plutôt Sidney. Voici donc Jean Poinceau, qu'on appelait Little Mez, donc inspiré de Mesereau, et Claude Massimi, qui lui est plus inspiré de Sidney Bechet. Ils sont tous les deux sur scène. Alors ça va gratter un petit peu, mais on va entendre deux sopranos pour le prix d'un dans la lignée de Sidney Bechet et de Mesereau. Et ils nous jouent Delta Mood, enregistré à Montauban, au Festival de Montauban, le 5 juillet 1989.
Thank you.
Alors, encore une fois, mes excuses pour la mauvaise qualité sonore, mais la musique était bonne. Oui, Dominique, on pouvait passer ça. C'était excellent. Donc, on pouvait passer ça, évidemment. Mais la prise de son était peut-être pas techniquement bonne, mais ça a l'intérêt de nous restituer l'ambiance d'un festival. Puis le côté un peu, on fait le bœuf, on joue ensemble pour le plaisir, bien sûr pour le public, mais beaucoup pour le plaisir. Et c'est tout la musique de jazz, cela. Alors, deux genres de saxo, soprano en même temps, en plus, c'est très très rare. On va rester culinaire, puisqu'on parlait de carottes. Et je rappelle que le jazz, c'est comme les bananes, ça se consomme sur place. Alors, c'est pas de moi, ça. Hein. C'est un drôle d'amateur de jazz. Je crois qu'il y a eu quelques crises existentielles. Je me souviens plus de son nom, mais il a eu des problèmes avec l'existence, ce gars-là. Ça, j'en suis à peu près sûr. Alors maintenant, je vais vous offrir un dernier artiste français totalement empreint de la musique de Sydney. C'est Olivier Franc. C'est sans doute, on a écouté dans un des orchestres tout à l'heure, son père jouait aussi, mais il n'était pas en soliste. Eh bien, Olivier Franc est sans doute le meilleur disciple aujourd'hui de Sidney Bechet. Et les mannes de Sidney Bechet lui sont insufflées directement dès qu'il embouche son saxo-soprano pour une raison simple, c'est qu'il joue avec le saxophone de Sidney Bechet. Alors, la police ne se déplace pas, il ne l'a pas volé, on lui a donné. Hein, c'est un bien propre, voilà. Mais tu nous dis, Dominique ?
Oui, c'est un amateur suisse qui a donné le soprano.
Absolument, qui l'a acheté et qui lui a donné. Donc, quand on entend Olivier Franc, on voit un peu Sidney. Et c'est pour ça qu'à Limoges, on a pensé à Sidney Bechet quand Olivier Franc est venu avec son orchestre. Mais évidemment, on va revenir à la musique. Hein, trêve de bavardage. Et on va entendre maintenant un des morceaux joués par Mac Laferrière tout à l'heure. Le premier titre, c'est « Suet », qui a été enregistré en Allemagne par Olivier Franc en 2007. Et le deuxième titre qu'on va entendre par le même orchestre, enregistré en 2009, donc c'est des disques tout récents, s'intitule « Buddy Bollenstorm ». Donc premier titre, « Suet », deuxième titre, « Buddy Bollenstorm » par Olivier Franc.
Thank you.
Eh bien, le premier titre est enregistré lors d'un concert en Allemagne, je l'ai dit. C'est une autoproduction d'Olivier Franc. Le second est extrait d'un disque gravé sous le nom de Daniel Sinnebechet, qui jouait de la batterie. C'est un disque Frémont et Associé, donc plus récent. Les musiciens sont quasiment les mêmes dans les deux titres qu'on a écoutés. Au piano, on a entendu Jean-Baptiste Franc, au trombone Benoît de Flamenil. Et on remarque qu'il y a des générations de jazzmen, le père et le fils chez les Béchet, Sidney et Daniel Sidney-Béchet. Le grand-père René Franc, donc on a entendu tout à l'heure dans un disque, mais il était dans le pupitre, donc on ne l'entendait pas particulièrement, il faisait partie de l'ensemble. Donc René Franc, qui a joué avec Sidney Béchet, avec Claude Luther, avec André Reveliotti, avec Pierre Braslavski, donc tous des noms qu'on a écoutés aujourd'hui. Et puis il a pour fils Olivier, qu'on vient d'entendre, avec le saxo de Sidney, et le fils d'Olivier, Jean-Baptiste Franc, qui joue du piano. Bon sang ne saurait mentir. Des générations de musiciens, donc on verra si Jean-Baptiste Franc nous produit un futur jazzman, on va voir, hein, peut-être, espérons. Alors je vous rappelle que le jazz, malgré tout, est une musique des Noirs américains, parce que là c'était très français pour le moment, une musique américaine et des Noirs, en particulier à une époque où tous ces gars connaissaient leurs racines, pigeaient naturellement le swing, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Bref, on va passer à des musiciens noirs qui doivent eux aussi leur tribut à Sidney Béchet. Le premier d'entre eux, alors c'est peut-être une surprise, mais c'est le saxophoniste Bud Johnson. Outre le ténor, Bud Johnson pratique le soprano, instrument sur lequel il est plus un admirateur de Sidney qu'un véritable disciple. On va donc écouter Mr. Béchet. C'est un disque black and blue enregistré à Valoris le 18 juillet 1974. Thank you. J'espère que vous avez aimé les Sidemen aussi dans ce disque de Bud Johnson qui ne ressemble pas du tout à Sidney Bechet, hein, mais
quand même.
C'était Mr. Bechet, donc un portrait, une interprétation, voilà. Peut-être un peu impressionniste par Bud Johnson de Sidney Bechet. Mais quels sont les Sidemen? Eh bien, il y en a un, le premier, c'est un noble musicien, puisque son prénom c'est Earl, c'est le comte, n'est-ce pas? C'est aussi un gentil papa, parce que son surnom c'est Faza, Father. C'est donc Earl Faza Hines, pas mauvais comme pianiste.
Oui.
Voilà, Alain Réjoux est content, il a entendu Earl Hines aujourd'hui, sinon il nous faisait une crise, hein. Alain, t'as écouté ton Earl Hines, hein. Et Bud Johnson a joué dans le grand orchestre de Earl Hines, longtemps avant évidemment. Et donc, il a invité ensuite Earl Hines à jouer avec lui dans cette petite formation qui comprenait aussi Jimmy Rurley à la contrebasse et un très bon batteur, Panama Francis, rien que ça. Mais celui qui a été le plus influencé par Sidney Bechet parmi les musiciens américains, c'est, alors je vais dire, bien sûr, Johnny Hodges. Pour les casse, pour les amateurs de jazz, c'est bien sûr. Pour les autres, c'est peut-être surprenant. Puisque Johnny Hodges est un altiste formidable. Le meilleur avec Benny Carter.
Indiscutablement.
Le meilleur avec Benny Carter. On est d'accord avec Dominique. Bon, c'est pour ça qu'on ne s'engueule jamais. Donc, Sidney Bechet a été une influence majeure sur Johnny Hodges, qui a joué du soprano sur les conseils et les leçons de Sidney. Donc là, il y a un lien direct. Et entre 1928 et 1940, si j'ai bien repéré, c'est bien entre ces deux dates-là. Si j'ai fait une erreur, on me le dira. Mais notre petit lapin, The Rabbit, ben, qu'est-ce qu'il a pris dans sa bouche, dans son bec? Il a pris une carotte. Il a pris un soprano. Et il nous a offert de très jolis solides sopranos. Je vais moi maintenant vous en offrir deux, enregistrant petite formation. L'une est dirigée par Duke Ellington, évidemment. L'autre est dirigée par Johnny Hodges. Chaque fois, c'est le musicien de Duke, hein, de toute façon. Et je vais vous laisser trouver les solistes de ces deux morceaux. Le premier, c'est Indigo Echoes. Et c'est enregistré à New York le 15 mars 1935. Le second, eh bien, il fait penser à une voiture. Une voiture avec quatre motrices, c'est Gypsy Blues, enregistré à New York le 28 mars 1938. On écoute donc Johnny Hodges au soprano. Thank you. C'est l'heure de vérité maintenant.
Oui.
Parce que je n'avais pas indiqué les solistes.
Mais non, t'écoute.
Alors, je pense que tous les membres du Hot Club de Limoges ont reconnu, outre notre petit lapin qui jouait du soprano, le Duke lui-même au piano, Rex Stewart qui jouait du cornet à piston avec les pistons à demi enfoncés.
Ouais, c'est une technique,
hein,
ça.
C'est tout à fait sa technique, on le reconnaît grâce à ça. Le saxophone baryton qui est toujours bon au saxo baryton, c'est Harry Carney. Ça, c'était dans le premier morceau. Ensuite, on a écouté le growl et le wah-wah de Cootie Williams à la trompette. Donc, on ne peut pas confondre avec Rex Stewart. À nouveau, Harry Carney et Lawrence Brown, un trombone un peu mou, mais mélodieux. Et alors, si les membres du Hot Club de Limoges n'ont pas trouvé ça, on les met tous à l'amende.
Hein ? Ils ont trouvé, ils ont tous trouvé.
Bon, sinon, une amende. Non, mais... Alors, on va peut-être pouvoir répondre à la question posée en titre. Sidney Bechet a-t-il des héritiers ? Bah, je crois qu'elle n'a pas eu beaucoup de disciples directs, mais il a exercé une influence considérable tant aux États-Unis qu'en Europe, plus particulièrement en France, et il est en très grande partie à l'origine de ce qu'on a appelé le jazz revival après la guerre. Aujourd'hui encore, je le disais tout à l'heure, les amateurs de jazz New Orleans se réclament de Sidney et tous les clarinettistes, plus encore les sopranistes, s'en inspirent. Et ce n'est ni Marc Laferrière ni Olivier Franc qui me démentiront, qui sont de fait peut-être les seuls héritiers directs de Sidney Bechet. Olivier Franc, pas parce qu'il a son soprano, aussi parce qu'il joue à la manière de Sidney Bechet, mais il joue dans le style Olivier Franc, évidemment. Mais on a vu que Sidney avait influencé aussi de grands jazzmen américains, dont Bud Johnson, qui joue différemment, mais qui est influencé, Johnny Hodges, qui est un magnifique sopraniste, en plus d'être un excellent altiste. Mais tous ces musiciens des deux côtés de l'Atlantique ont développé leur style personnel, ont cherché d'autres inspirateurs, fussent-ils très proches de leur mentor. Je pense à Claude Luther, qu'on a écouté, par sa personnalité, par son caractère, par la conscience qu'il avait de son originalité. Sidney Bechet, pouvait-il avoir de réels suiveurs ? Je crois que non. Cependant, son art avait une telle aura qu'il fut un véritable chef d'école, et c'est tout cela son héritage. Il mérite donc bien que l'on prenne soin des petites fleurs qu'il nous a offertes.
Oh, mais c'est pas mignon, ça.
Hein, n'est-ce pas ?
Oui. Moi, j'ai connu Sidney Bechet par petites fleurs. Hein.
Mais, moi aussi, c'est mon premier 45 tours.
C'est ton premier 45 tours.
Il y a, comme jazz, il y a nettement mieux. Mais il y a tellement de nostalgie. Même Dominique, t'écoutes encore Petites Fleurs en cachette.
Évidemment.
Ben voilà.
Ah, ouais, avec tous les souvenirs rattachés à ce titre.
Voilà. Donc c'était les petites fleurs qu'a semé Sidney Bechet. Je vais changer le titre de l'émission.
C'était Swing Time 2017 avec Alain Charbonnier sur Swing FM. Puis on s'est régalé, quoi. Voilà, c'est pas compliqué.
J'espère,
hein.
Oui.
Je pense que ouais, les auditeurs, je pense qu'ils se sont régalés là. Hein.
Voilà, et puis ça a peut-être rappelé de bons souvenirs à certains.
Plein de choses. Merci beaucoup. On se retrouvera bientôt, of course.
Bientôt, dans l'année à tous les coups.
C'est sûr. À bientôt.
Voilà. À bientôt, au revoir tout le monde.